La matinale, le coup de fil.
La sécurité olympique, militarisation, surveillance et politique. C'est le titre d'une conférence mise sur pied par la Société neuchâteloise de géographie. C'est ce soir, 18h30, à la Faculté des Lettres à Neuchâtel.
Et le conférencier, c'est le docteur Denis Pauschinger, actuellement chercheur à l'Université de Neuchâtel. Denis Pauschinger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous parlez de militarisation, c'est dans le titre de la conférence. Cette militarisation, elle se manifeste de quelle manière ?
En général, on peut vraiment dire que c'est un processus dans lequel la stratégie ou les matériels militaires sont utilisés dans la sphère civile. Et aux Jeux olympiques, on voit ça très bien dans les Jeux précédents, comme à Londres, aussi à Rio de Janeiro, vraiment des tâches de responsabilité, de sécurité dans des sphères civiles, dans des villes, sont faites par le militaire ou l'armée dans ces pays.
Également, les caméras de surveillance qui se multiplient.
Exactement. Il y a vraiment une standardisation de la sécurité pendant des Jeux et avant des Jeux et qui se répète d'une ville haute à l'autre. Et puis, un de ces standards, c'est l'utilisation du militaire ou aussi les caméras de vidéosurveillance.
Comment vous expliquez cette tendance ? Est-ce que c'est le gigantisme de l'événement, la dimension des Jeux olympiques qui justifie ces mesures ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Une des choses pourquoi se manifeste la sécurité de cette manière, c'est la grandeur des Jeux. Alors vraiment, l'importance politique des Jeux, le Comité olympique, il parle souvent que ce ne sont pas les Jeux politiques, mais ils sont assez politiques quand même. Et puis, quand il y a la visite des grands chefs d'État et tout ça, on a besoin d'une sécurité différente, comme dans des autres compétitions un peu plus moins grandes. Mais aussi, une autre raison, c'est que c'est vrai que les Jeux olympiques, ils n'arrivent pas dans un vacuum politique. Alors, ça veut dire les tendances qu'on voit dans la sécurité en général se répètent au sein des Jeux aussi.
Mais d'où vient le risque ? Est-ce qu'il vient des spectateurs, des supporters, ou alors c'est même des risques de personnes ou de groupes externes ?
C'est toujours un mélange, mais ce que nous avons vu dans la recherche, c'est après, principalement le 11 septembre, les attaques du 11 septembre 2001 à New York, que justement il y a une spirale de sécurité, les menaces de terrorisme qui sont utilisées par monter une sécurité aussi forte. Mais c'est vrai que la sécurité des Jeux olympiques ou aux grands événements sportifs se fait aussi un peu dehors des risques réels. Et ce qu'on voit dans des études, c'est aussi pour protéger, pour garantir une expérience olympique sans interruption pour les spectateurs olympiques et pour les partenaires de marketing, pour le comité.
Est-ce que certaines de ces mesures de sécurité se prolongent après l'événement ?
Oui, ça c'est un des grands axes aussi qu'on voit dans les recherches, c'est qu'il y a un héritage de sécurité. Ça veut dire que les choses ou les matériels de sécurité, par exemple des matériels nouveaux pour la police, les caméras de vidéosurveillance, ils restent dans les villes après que les Jeux sont partis pour la prochaine ville hôte.
Si on parle des frais de sécurité, on prend l'exemple de Vancouver en 2010, les frais de sécurité étaient estimés à 200 millions, finalement ils ont dépassé les 600 millions. Les frais de sécurité sont systématiquement sous-estimés par les organisateurs des Jeux Olympiques, pour quelles raisons ?
Je pense qu'il y a deux facteurs qui sont vraiment très très importants dans ce cas-là. Un des facteurs, c'est vraiment que tous les coûts des Jeux sont sous-estimés avant des votations publiques, par exemple. Et on sait que de tous les Jeux olympiques, ils ont augmenté les prix. Pour la sécurité, c'est vraiment très difficile au départ de dire ce qui va se passer en 2026, par exemple, à Sion. On ne peut pas lire le futur et dire la situation de sécurité de 2026. Mais les organisateurs, à la fois de calculer avec des prix réels ou de prendre des exemples, par exemple de Vancouver ou de Turin, ils calculent un peu moins pour que le budget en général, il apparaisse un peu moins cher devant et avant des grandes votations publiques. Moi, j'appelle ça une politique de camouflage des coûts de sécurité.
Alors désormais, tous les organisateurs de Jeux Olympiques parlent de Jeux à taille humaine, redimensionnés, parlent de transparence. Vous y croyez à ces promesses ?
Non, pas vraiment. C'est ce qu'on voit avec le Comité Olympique International. Par exemple, il y a l'agenda 2020 qui promet depuis très longtemps qu'il y aura des Jeux olympiques à taille humaine. Mais c'est un outil de marketing pour justement convaincre les populations à voter à faveur des Jeux. Et ce qu'on voit, ce qu'on doit en fait regarder, c'est pas des promesses, c'est pas des agendas, mais c'est le contrat que la ville haute signe avec le comité. Puis là, on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. C'est en fait la fête est payée par les citoyens dans les villes et les gains, ils restent avec le comité.
Alors un changement qui est réel, c'est les référendums. À Hambourg, la population a dit non aux Jeux 2024. Il y a également un référendum prévu pour Sion 2026. Ça pourrait mener à plus de transparence, selon vous?
C'est possible que ces référendums, ils initient un processus avant ces votations que les organisateurs sont un peu plus obligés de montrer les détails de leur projet. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à Hambourg, où j'ai accompagné les deux campagnes du oui et du non, et j'étais assez engagé dans le non, nous avons vu que la ville nous a promis vraiment des grands changements dans la manière comment ils vont monter les jeux. Et puis on a vu que les calculations n'allaient pas jouer. Et c'est vrai que là aussi, c'était mieux que les citoyens, ils ont dit non.
La conférence « La sécurité olympique, militarisation, surveillance et politique », c'est ce soir 18h30 à la faculté des Lettres de Neuchâtel. Denis Pauschinger, merci et bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
RTN, la matinale.